Cette émission est une présentation Intersport Productions.
94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
Bienvenue dans le vestiaire.
Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
Eh bien, nous y voilà pour un cinquième match de suite. Les Sénateurs seront-ils capables d'écrire l'histoire? Tout ça avec le spectre du fait qu'on n'a pas le centre numéro un. C'est un gros défi alors que le Wild s'amène en ville.
Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
On veut dire une chose, par exemple, tout le monde est prêt, puis on a hâte de jouer à la hauteur des attentes. On veut un match physique, on s'y attend. Le Wild s'amène ici, veut gagner, tente de créer un momentum. Les Sénateurs tentent eux aussi d'écrire une petite page d'histoire en marquant 5 victoires en 5 de suite à leur début à domicile. Ça s'est jamais vu dans la capitale. Bref, une émission condensée, on met la table, plusieurs invités, on vous dit bienvenue dans votre vestiaire. Ben oui, l'émission condensée avec Renaud Lavoie, Jacques Martin, Marc Schreiber, Patrick Grandmaître. On aura le temps peut-être de faire quelques échos de vestiaire. Mais ce soir, au hockey, Véronique Lecier des Sénateurs contre le Wild du Minnesota. Le Wild qui a reçu un coup de semonce, on va le dire comme ça, de la part de leur directeur général, Bill Guérin. Après avoir connu un début de saison houleux, les choses sont redressées. Ce qu'on disait du côté de Bill Guérin, écoutez, on n'en est pas à faire exploser ce vestiaire-là. C'est à eux de se responsabiliser, puis cette équipe doit jouer à la hauteur des attentes. Une équipe qui a quand même terminé très haut classement l'an dernier dans l'Ouest, une équipe qui avait quand même récolté 113 points, ne l'oublions pas. Alors les attentes sont très élevées, on a fait des choix, celui de garder un Marc-André Fleury, on a transigé avec les Sénateurs, Philippe Gustafsson d'un côté, et ça mène Cam Talbot, ne sera pas du rendez-vous aujourd'hui, ça c'est un rendez-vous manqué, mais on pourra dire certainement une prochaine fois, un qui veut pas rater sa visite ici à Ottawa, c'est Marc-André Fleury qui a très bien fait devant parents et amis, avec toujours son sourire pepsodent contre les Canadiens, on veut continuer sur cette lancée, c'est un bon mix, un bon mélange d'expérience et de jeunes, la nouvelle génération qui pousse du côté du Wild, puis on est là pour faire un long bout de chemin. Alors on verra bien, un autre bon test pour les hommes de DJ Smith, puis on vous le rappelle, ça ne s'est jamais fait, 5 victoires de suite à domicile, alors 5 premiers matchs en début de saison, les Sénateurs pourraient effectivement avoir ce record entre les mains. Brady Tkachuk, 5 matchs consécutifs avec plus d'un point. Brassard, qui aura tous les projecteurs sur lui en étant celui qui doit remplacer Josh Norris. Pour combien de temps? Là est la question. Je crois sérieusement qu'avec ce qu'il nous donne comme bribe d'information, avec le jeu qu'il nous a donné dans son premier match, je pense qu'il est capable de maintenir la cadence. Est-il capable de retrouver les jambes au rythme d'un 7e match? Là est la question. La patate va-t-elle tenir? J'en suis convaincu, le gars est en forme. L'expérience est là, puis à défaut d'avoir la vitesse, c'est le positionnement. Je crois dur comme fer que Brassard sera capable de faire le travail. Forsberg devant le filet, probablement un retour. On n'a rien confirmé du côté de DJ Smith, mais tout semble indiquer qu'il sera apte à reprendre l'action. Pour le reste, ben Zaitsev va entreprendre un 400e match en carrière, lui qui va remplacer Holden. On avait une petite peur hier parce que Branson à l'entraînement s'est fait frapper au visage, mais tout est correct de ce côté. Cam Talbot reprend l'entraînement, a reçu quelques rondelles, pas encore près d'un retour, mais tout de même, ça avance très très bien. On se croise les doigts. Alors un match à 19h05, hockey Véronique Lecier des Sénateurs, l'avant-match du CECE à 18h30. On a Renaud, on a Jacques, on a Marc, on a également Pat Grandmaître, on a également le coach qui nous attend, mais tout d'abord, quelques secondes avec Travis Amonic qui va nous parler de plein de choses, le défi du Wild, mais également l'efficacité pour la sortie de zone des Sénateurs. Écoutons le numéro 23.
Yeah, ça va être un bon match pour nous autres. Ça va être un bon match pour eux aussi. Je pense que, comme tu as mentionné, ça fait trois matchs de fil qui se prend des points. Puis on se connaît, c'est une bonne équipe. Ça va être des bons joueurs. Pour nous autres, on doit se préparer pour un match qui va être pas mal vite, je pense, ce soir. On veut finir les 5 jeux, les 5 matchs quand on va rester à la maison. On veut finir un bon succès.
On a parlé aussi d'une des facettes du jeu qui se développait pour vous autres, l'aspect physique. Puis c'est le genre de match pour vous autres qui va bien à votre identité, est-ce que je me trompe en disant ça?
On veut être capable de jouer n'importe quelle façon que tu veux. So, si on a un jeu qui... On a un match contre une équipe qui peut s'occuper physiquement pendant le match, then on veut s'être préparé pour faire ça, puis on pense qu'on a l'équipe pour faire ça aussi. So, quand les équipes qui jouent de façon comme ça viennent dans notre arena, on doit être prêt pour ça, puis je pense qu'on va t'aider.
Dernière pour toi, une des facettes l'an dernier, un des problèmes pour vous autres, c'est le breakout, les sorties de zone. Mm-hmm. Cette année, vous semblez beaucoup plus efficace. Est-ce que je me trompe en disant ça? Parle-nous de cette facette-là.
Ben, j'espère que ça va mieux. C'est quelque chose qu'on pratique, puis c'est pas juste les deux défenseurs qui doivent sortir la rondelle de notre zone, c'est les cinq joueurs ensemble. So, la communication, c'est quelque chose d'important, puis je pense qu'on a beaucoup de ça cette année à ce moment, puis on doit se commencer à continuer à faire ça, puis juste continuer à s'améliorer.
Travis Salmonic des Sénateurs d'Ottawa, le match ce soir 19h05 au hockey. Véronique Lossière des Sénateurs, le coach Sam Cartier sera avec nous. D'accord avec moi, Salmonic était un peu surpris quand j'ai amené l'affaire des breakouts, mais l'an dernier, DJ Smith avait bien mentionné qu'une des lacunes de la formation pour engranger plus d'offensives, c'était effectivement les sorties de zone. Oui. Force est d'admettre que les quatre matchs qu'on a vus ici, là, c'est beaucoup plus efficace, la transition et tout ça.
Ben, la première des choses, Nicolas, il a entièrement raison, puis chapeau là, pour la qualité de son français. Là. Moi, c'est. Regardez, la première, c'est quand on parle de sortie de territoire, définitivement, on parle de sortie de territoire sous pression. Hein, pas de pression, normalement. Ouais, là, je veux dire,
si t'as de la misère, pas de pression, là, c'est parce qu'il y en a un problème.
5 contre 0,
ouais,
là.
C'est ça.
Tape to tape. Alors, il a entièrement raison. Il y a une meilleure, définitivement, une meilleure cohésion, mais une meilleure contribution des attaquants en support dans notre propre territoire. Alors, ça, c'est un des facteurs, mais écoute, on a peu de temps, là. Alors, je vais prendre le contrôle de notre discussion. 3 points. Tu as mentionné Bill Guérin. Beaucoup de gens, là, dans les derniers jours, disaient c'est bien trop tôt dans un si jeune début de saison qu'un directeur général déjà là se pointe. Mais non, faut être cohérent, là. On l'a toujours dit. Les points ramassés dans les 10 premiers matchs du calendrier régulier peuvent faire pencher la balance dans le dernier droit. Alors, lui, il a réagi rapidement. Cette formation-là a récolté des points à leurs 3 derniers matchs, que ce soit une victoire, défaite en prolongation et ainsi de suite. Et surtout que c'est une formation qui, l'an passé, là, c'est 113 points, c'est 53 victoires, 22 défaites. C'était
déficit.
Puis, encore plus, et qui était inquiétant, c'est que l'an passé, ils ont seulement 8 défaites à la réglementaire sur 41 matchs à la domicile. Et cette année, ils en ont déjà 3 en 4 matchs. Alors, on a jugé bon tout de suite de donner un certain coup de barre. On passe à un autre appel. La sélection du groupe des 6 en défense aujourd'hui, puis là, peut-être, je vais partir d'un faux débat. Il y a un débat qui n'existe plus. Hein? C'est que l'an passé, là, excuse l'expression, dans le melting pot, on aurait mis Brandstrom. Brandstrom n'est plus dans le melting pot. Alors là, il n'y a plus de mariage à 3, il y a un mariage à 2. Et là, peut-être, je vais partir d'un faux débat, là, parce que je voyais sur différentes plateformes, médias sociaux aujourd'hui, ben oui, mais là, on va rentrer Zatsev, on va le rentrer parce qu'on veut le mettre dans la vitrine. Hey, attends une minute, là. Lui, le coach veut gagner des games. Lui, là, la vitrine, là, c'est bien beau, là, mais lui, il veut mettre des points en banque.
Mais faut quand même, puis j'ai mis dans mes notes, pourquoi Holden? Pourquoi on remplace Holden?
Ben non,
Brandstrom ne mérite pas d'être remplacé.
Je dis, il y a des gens, la réaction, on dit, on veut mettre tout simplement Zatsev dans la vitrine. Écoute, là, tout le monde le sait à quelle position il joue. Tout le monde connaît son contrat. Le problème de Zatsev, c'est son contrat.
Ouais,
parce que
ça.
Déjà, si ce n'est pas de cette situation-là, on aurait déjà trouvé preneur dans le dossier de Zatsev. Alors, moi, je trouve ça dommage, mais je vais te dire pourquoi. C'est un peu un jeu de mots, mais dans le cas d'Holden, les deux faisaient la paire. Non, mais lui puis Brandstrom. Honnêtement, tu sais, c'est important la complicité sur un duo en défense, comme c'est la même chose, cette cohérence, cette synergie au niveau des différents trios en attaque. Alors, je reviens au vieil adage, pourquoi réparer ce qui n'est pas brisé?
Ouais.
Alors, je referme la parenthèse, et là, je veux revenir sur Mark Kastelic, qu'on a prolongé pour 2 saisons aujourd'hui. Dans le cas de Kastelic, là, quand tu repêches un joueur 125e au total lors de la séance de sélection de 2019, tu sais, quand on parle de profil de joueur dans l'acceptation du rôle, ici, moi, j'écoutais ses propos aujourd'hui, là. Lui, là, il pas compliqué, là. Il dit, ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est mes éthiques de travail. Il n'a jamais parlé de talent. Puis il dit, pour moi, il faut que je continue à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour, à chaque jour. Alors, c'est amplement mérité. Écoute, c'est pas un gros contrat, là, mais je fais juste mentionner que là, on vient de le canner pour les deux prochaines saisons. Puis, au niveau de la notion de la profondeur, tu as besoin de ces joueurs-là qui peuvent jouer avec une certaine résilience, une certaine hargne, puis de temps en temps, un petit peu plus de papier.
C'est peut-être pas un gros contrat aux yeux de l'équipe, mais, non, pour lui, ça représente énormément. Ben oui. Puis, j'ai dit, il y a une histoire, puis il y en a plusieurs des histoires comme ça, tu le sais. Et on arrive de loin, puis on s'accroche à la Ligue nationale de hockey. C'en est un, ça, puis tu l'as dit, hargne au travail. DJ Smith n'arrête pas de louanger son éthique de travail, autant en avant qu'hors que sur l'Atlas, puis la forme physique du kid. Puis il a de l'air tellement d'un kid qui a été bien élevé, là. Oui. Alors, content pour lui.
Tu viens toi lorsqu'il s'est présenté au camp, là. Bon, il a été identifié le joueur qui était le plus en forme. Bien, oui. Puis je vais aller plus loin. Je te mets au défi. Tu vois, sur les différentes plateformes, à un moment donné, où on te donne, tu sais, un peu le portrait du joueur. Tu sais, là, voici ses dominantes, ses non-dominantes, et une certaine projection. Quand tu regardes sur différentes plateformes et tu marques Mark Kastelic, il n'y a rien. Tu sais ce que ça veut dire, là? Il n'y a rien. C'est parce qu'il y en a plus. Il est en train de déjouer les pourcentages.
C'est parce qu'il arrive de loin.
Non, mais il est en train de déjouer les pourcentages. Alors, chapeau à celui-ci, c'est bien. Mais c'est pas le 800 000, tu as raison. En bout de ligne, c'est pas le 800 000. Moi, je pense que c'est bien plus le geste envers lui. Je regardais le court vidéo qu'on a fait lors de sa signature. Alors, au mérite, chapeau à celui-ci.
Il enlève sa casquette à part de ça quand il rentre dans le bureau.
Est-ce qu'il met le t-shirt, coach, lui?
Ah, je ne sais pas.
Y en a-tu qui ne mettent pas de t-shirt dans le message? Attends.
Salut, coach.
Je
ne
sais pas, je l'ai vu aujourd'hui encore.
Ouais, je sais de qui tu parles. Un gars de Phoenix, Mark Kastelic, puis probablement qu'il a voulu signer au plus sacré avec Ottawa pour être sûr qu'il ne retourne pas dans sa terre natale, avoir l'état de l'aréna là-bas pour Oui?
Un petit bonnet down. Excuse-moi, je t'ai interrompu, là, parce que je sais que Renaud est en attente. Ouais. Petit bonnet down, là. As-tu vu le vestiaire des Coyotes de l'Arizona?
Ben, c'est là que je faisais le lien. Alors, voilà le lien.
Quel ridicule tu?
Bon, ben, on en parle justement, c'est un des sujets avec Renaud. Merci, coach. On s'en va rejoindre Renaud à l'instant. Renaud, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Nicolas.
Ça va très bien, merci. À voir l'état de ce vestiaire des visiteurs, puis j'ai pas le choix d'en parler parce que là, ça fait le tour. Puis les commentaires fusent de tout le bord. Mais au nom de quoi, de qui, de comment la Ligue nationale ou le commissaire s'accrochait à un marché puis une situation comme celle-là? Là?
L'orgueil. Ça peut pas être autre chose que ça. C'est plusieurs facteurs. L'orgueil d'abord et avant tout. Donc, nous autres, on va prouver que ça va fonctionner, mais ça fait 20 ans que ça fonctionne pas. Donc, on continue dans la même veine. On impose une façon de voir les choses, si tu veux, au monde du hockey, mais pour les propriétaires, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les propriétaires acceptent quand même de subventionner cette organisation. Parce que il y a un partage des revenus qui existe dans la Ligue nationale qui fait en sorte que les équipes, entre guillemets, pauvres, se retrouvent avec des vingtaines, trentaines de millions par année où on les subventionne. C'est de l'argent qui vient des Maple Leafs, des Canadiens, qui vient des Rangers de New York. Alors, si ces formations-là se tenaient debout et disaient « Non, nous autres, c'est fini, là. On arrête de subventionner ça. C'est terminé. » Ben déjà là, ça avancerait dans le bon sens. L'autre point, c'est l'association des joueurs qui, si elle était moindrement forte, pourrait dire à la Ligue nationale, puis regardez Gary Bettman dans le blanc des yeux, ça fait longtemps que c'est pas arrivé que quelqu'un de l'association des joueurs a regardé Gary Bettman dans le blanc des yeux en disant, non, ça marchera pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a personne qui est capable de regarder Gary Bettman dans le blanc des yeux. Alors, on impose une vision. Pourquoi je dis l'association des joueurs? Comprenez une chose, là. Quand un marché comme ça, et les revenus sont presque nuls dans la Ligue nationale de hockey depuis la saison 2012-2013, les joueurs et les propriétaires se partagent 50% des revenus. Donc, plus les revenus montent, plus les joueurs s'en mettent dans les poches. Pas compliqué, ça, comme mathématiques. Mais les revenus stagnent. Gary Bettman va dire, non, c'est pas vrai, il augmente. Oui, il augmente parce qu'il était capable d'aller chercher des contrats de télé, puis il y a deux nouvelles équipes de la Ligue nationale. Mais sans ces deux nouvelles équipes dans la Ligue nationale, si on était encore à 30 avec les contrats de télé plus ou moins moribonds qu'on a présentement, surtout aux États-Unis. Je veux dire, le plafond salarial serait peut-être à 77 millions. Ça serait encore pire qu'aujourd'hui. Alors, il faut que la Ligue nationale de hockey et ses intervenants les plus importants, soit les joueurs et les propriétaires, commencent à se lever debout et disent clairement, c'est terminé. On va arrêter de subventionner des marchés moribonds, particulièrement celui de l'Arizona, parce que tout le monde est perdant. Je ne sais pas qui est le gagnant là-dedans. Il n'y a pas techniquement de gagnant économiquement. Il n'y a pas un propriétaire qui fait de l'argent avec ça. Puis il n'y a pas un joueur qui voit son revenu augmenter grâce à ça. Au contraire, son revenu diminue. Alors, tu sais, la mathématique, pour moi, c'est très, très simple. Il y a une raison pourquoi dans la NFL, les choses fonctionnent. C'est qu'on s'est débarrassé, il y a à peu près une vingtaine d'années, de tous les petits marchés qui ne voulaient rien
dire. Les canards boiteux.
Moi, je suis à Saint-Louis présentement. Là. Saint-Louis, là, c'était pas un mauvais marché pour la NFL. Mais est-ce que c'était un marché qui allait rapporter autant que celui de Los Angeles? Ben voyons donc. La réponse est non. Alors, on a construit le propriétaire des Rams, ils ont déménagé à Los Angeles. On a construit un stade qui a juste coûté 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, non seulement ça, on a un autre club dans le stade, soit celui des Chargers. Pourquoi les Chargers ont quitté San Diego? Ben, San Diego, ils voulaient pas construire un nouveau stade. Puis on sait tous que les revenus sont pas mal plus gros à Los Angeles d'une maison qu'à San Diego. Mais on déménage. On va là où l'argent est. Dans la Ligue nationale, on se sauve de l'argent. On veut pas l'argent de Québec. On dit qu'à Québec, les gens sont pauvres. Ben oui, c'est sûr, tu vas jouer en Arizona. Il y avait 8000 personnes dans ton gros building. Tu vas tomber à 4000 si tu es chanceux. Mais j'imagine que ces 4000-là, c'est plus payant que 18000 à Québec. Oui, c'est sûr. Non, pas du tout. Construis un autre building à Hamilton, voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Construis-en un dans le sud de l'Ontario. Alors, va là où l'argent est. Arrête de te sauver de l'argent, de créer des faux marchés en se disant, oui, mais c'est le 8e plus gros marché des États-Unis. Oui, mais c'est quoi ton revenu hockey? Il est zéro. Va là où tu as un revenu hockey. Hamilton, Québec. Amène deux autres franchises rapidement au Canada. Les joueurs, là, tu vas voir, vont être contents d'aller jouer à Hamilton, vont être contents d'aller jouer à Québec. Qu'est-ce qui s'est retrouvé dans des affaires qui n'ont pas de bon sens, là?
Là, mon sang bouille quand tu ramènes le nom des Nordiques. Je vais arrêter ça là parce que...
L'amphithéâtre est déjà à Québec. Il est construit. Alors, qu'on vienne pas nous dire qu'il nous faut un nouvel amphithéâtre. Puis à Hamilton, la journée que tu vas regarder les hommes d'affaires du sud de l'Ontario en leur disant « On vous amène un club. Hey, tu vas voir de quoi. Ça prendra pas deux ans que le building va être debout. Ouais. » Je te le garantis. Parce que les gens vont être surexcités. Il faut que tu crées un engouement. La meilleure façon de le faire, c'est d'aller là où les amateurs sont, là où les revenus sont, et d'ajouter deux équipes canadiennes. Là. Ça serait surtout dans l'Est, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a juste trois équipes dans l'Est. Là. Canadiens, Senators, Maple Leafs.
Maple Leafs.
T'as quatre équipes.
Amène-moi un match Montréal-Québec un samedi soir, là.
Moi, j'ai toujours eu comme philosophie, là, OK? Tous les samedis dans la Ligue nationale de hockey au Canada, ça devrait être appelle ça des Super Saturdays, des Super Samedis, appelle ça comme tu veux. C'est une belle petite division canadienne. Une division canadienne, si tu rajoutes deux clubs, c'est extraordinaire. Ou même, t'en as sept présentement. C'est quand même pas pire, une division, OK? Puis, tous les samedis soirs, ou tous les samedis, là, ben, c'est juste des équipes canadiennes qui s'affrontent. À 4h l'après-midi, 7h, puis 10h le soir. Je vais te dire quoi, là? Les yeux vont être sur la télé. Les rivalités vont être grandes. Les gens vont être contents de regarder leur match de hockey. Je comprends pas pourquoi... Il y a peu de vision. On continue de répéter les mêmes erreurs. Bon, ben, nos revenus augmentent. Oui, pendant ce temps-là, la NBA est en train de te regarder de haut. Pendant ce temps-là, la MLS est en train de te rattraper. Avant, tu étais collé sur la NBA. Maintenant, tu es même plus proche de la NBA. Puis la MLS s'en vient en disant « On arrive! » Ça va être beau tantôt.
C'est un excellent point, ça, parce que lors de l'arrivée de Batman, on parlait de la Ligue nationale et de la NBA qui était pratiquement nez à nez. Depuis ce temps-là, là, ça a fait une coupe.
Tu sais, c'est pas comme si la NBA, là, ça allait bien. Il y a des amphithéâtres dans la NBA, là. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été... Il y a eu un engouement avec LeBron James, évidemment, puis les autres joueurs, que les contrats de télévision ont carrément explosé, ce qui n'est vraiment pas le cas au Canada, là, ou aux États-Unis non plus, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il faut trouver une façon de recréer cet engouement-là. Le Canada est, selon moi, la clé du succès encore dans la Ligue nationale de hockey, je te dirais, plus que jamais. Plus que jamais. Alors, mais c'est malheureux ce que je vais te dire, mais ça ne sera pas avec Gary Bettman. C'est sûr que ça ne passera pas par lui.
Aïe, aïe, aïe. On va continuer de rêver. Je veux t'entendre sur le Wild, un club que tu as vu, évidemment, il y a deux jours, eux qui étaient de passage à Montréal contre le Canadien. On s'entend que c'est un club qui est capable de jouer physique. C'est un club également qui a beaucoup de finesse. Un bon mix d'expérience et également de jeunesse. C'est quand même un beau défi pour les Sénateurs ce soir, ça, là.
Oui, surtout là avec les mauvaises nouvelles qui sont tombées cette semaine, là, chez les Sénateurs d'Ottawa. Là, ouf! Quand tu perds ton centre numéro un...
Mais Derek va faire la job pour le compenser.
Derek. Mais non, mais sais-tu quoi? La première chose que je me suis dit, c'est une chance qu'il est là, lui.
Exactement.
Parce que imagine si les Sénateurs avaient décidé au camp d'entraînement de le laisser partir. Tu sais, là, je sais pas, peut-être qu'il y aurait une autre équipe qui l'aurait signé, puis aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il serait pas là. Bon. C'est sûr que c'est pas l'idéal, là. C'est sûr que, dans le fond, la meilleure chose pour les Sénateurs d'Ottawa pour gagner face au Wild, c'est de ne pas regarder le classement, de ne pas regarder la moyenne des gardiens de but non plus. Parce qu'avant le match contre les Canadiens, c'était la pire de la Ligue nationale. Pire que les Coyotes, ça pour le faire. Alors, oubliez ça, là. C'est comme si le Wild a eu un début de saison catastrophique, mais c'est comme moi, là, qu'on l'a tout le temps dit, Nicolas, les 10 premiers matchs, là, faut presque pas que tu regardes ça. Si tu regardes les Blackhawks qui gagnent à peu près tous leurs matchs présentement, les Blackhawks sont si bons que ça. Donc, il faut que tu sois, faut que tu prennes une grande respiration. Là, le Wild, c'est une bonne équipe qui a eu un très mauvais début de saison. Marc-André Fleury, c'était pas facile pour lui. J'en ai parlé dans le vestiaire à Montréal il y a deux jours. Puis, on a une bonne conversation ensemble. Puis, le message que je lui ai donné, c'est « Hey! » Parce qu'il était déçu de lui-même. J'ai dit, hey, t'as déjà passé à travers pire que ça. Dans ta carrière, t'as passé à travers pire que ça. T'as toujours rebondi. Tu vois, il y a une très belle performance face aux Canadiens de Montréal. Donc, moi, je m'attends à ce que Marc-André soit encore très solide. Marc-André Fleury, c'est un athlète, là. Il bouge très rapidement encore. C'est une question de faire la job, de pas paniquer. Puis c'est lui qui a la clé, je pense, aussi du succès de cette équipe-là. Parce qu'offensivement, c'est une bonne équipe. Défensivement, un petit peu plus difficile. Alors, c'est là où le gardien de but a un rôle primordial pour justement réparer les erreurs, parce que des erreurs, il y en a.
Les erreurs, il y en a toujours, mais le hockey étant un jeu d'erreurs, c'est savoir qui en fait le plus durant la rencontre. Il y a ce soir les Canadiens contre les Sabres. Un petit mot pour parler des Sabres, surtout. C'est une équipe surprenante quand même, puis une équipe à surveiller cette année, là.
Tu sais, en juin 2020, ça va être mon sujet d'ailleurs avec Jean-Charles en 30 minutes. En juin 2020, ils ont fait quelque chose. Dans la Ligue nationale, ça a été l'état de choc. On a critiqué cette décision-là. Et moi, je pense que cette décision-là, c'est celle qui paye aujourd'hui. On a pris 22... On a pris 22 employés de l'organisation, dépisteurs, directeurs généraux, tout le monde, jusqu'à Rochester dans la Ligue américaine. 22. Jamais vu dans la Ligue nationale. 22 dehors. Sortez d'ici. On veut plus vous voir. Allez-vous-en. Tu vas me dire, attention Renaud, il n'y a pas vraiment de succès depuis ce temps-là. C'est plus ou moins vrai. parce qu'il y a plusieurs petites choses qui se sont passées. On a décidé, le gros problème des Sabres de Buffalo, c'est un problème de culture. C'est comme s'il y avait un virus à l'intérieur de l'organisation, on n'était pas capable de s'en débarrasser. On avait échangé à peu près tous les joueurs, on avait combien de fois congédié les directeurs généraux, des entraîneurs. Écoute, on avait toujours été en surface. Mais on avait décidé de jamais s'attaquer aux vrais problèmes. Puis, si tu veux plus de virus, là, sors le monde de ta place, il n'y en aura plus de virus. Alors, on a sorti ces employés-là. On en a rentré une nouvelle catégorie d'employés. La première saison, ben, ça a été la saison COVID. C'est épouvantable. Je veux dire, ça a été difficile. On gagnait, je dirais, un match sur trois. L'an passé, avec le retour d'Alex, avec l'arrivée d'Alex Stock, qui a été échangé de Vegas à Buffalo, et lui, oublie pas qu'il est arrivé en disant qu'il réalisait un rêve de jouer pour les Sabres.
Oui, oui.
Là, ça a changé un peu la perception. Oups, un joueur quand même de qualité qui veut jouer à Buffalo, c'est rare.
Un gars de Syracuse, puis un gars qui voulait
c'est
jouer
ça. C'est ça. Puis là, tranquillement, pas vite, là, t'es voir aujourd'hui 4 victoires, 2 défaites depuis le début de la saison. Faut faire attention parce que les statistiques avancées nous disent que les Sabres, présentement, jouent au-dessus de leur tête. OK. Correct. On peut comprendre. Mais, je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau dans cette organisation, une nouvelle façon de voir les choses. On s'est attaqué au virus, puis on veut aller ailleurs. Tant que tu as un problème de culture dans ton organisation, c'est très difficile de t'en départir de ce problème-là. Et je pense que les Sabres, la journée qu'ils ont dit 22 personnes dehors, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas une autre façon d'attaquer le problème. Sinon, la seule chose que tu fais, c'est de mettre des plasters tout le temps, puis ça ne marchera pas plus. Ton virus, il va sortir. Bravo, c'est pas facile à faire. Maintenant, on va voir comment cette organisation-là va jouer cette saison. Est-ce qu'elle va faire les séries? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle cogne à la porte? Je pense que oui.
Canadiens contre les Sabres à Buffalo, on regarde ça en parallèle. Je te souhaite un bon match ce soir, même si c'est à Saint-Louis, je suis sûr que tu vas regarder la rencontre. Et on se dit, nous, bon week-end et à mardi prochain.
Porte-toi bien, Nicolas.
Salut mon ami, Renaud Lavoie de TVA Sport. Je ne sais pas si on est en mesure d'écouter Kastelic avant Jacques Martin. Est-ce qu'on peut faire ça, Mick? Kastelic a signé une prolongation de contrat de 2 ans. Réaction maintenant.
I'm super excited. I've been loving every minute I've been here so far the last couple of years. And to be here for 2 more after this year for sure is It's a great feeling for me and my family, and you know, this city's been great to me so far, and I've been loving the fan base, and you know, it's a pretty exciting moment.
But there's a story to be told, and there's many of those, but like hanging to your dreams, like keep working no matter what, that's what you represent right now.
Yeah, I think so. It's a lot of hard work paying off over the course of the last 5 years or so. I mean, I always tried, there's been some ups and downs along the way, but overall, I think just being positive and confident and believing in myself has got me to this point. But at the same time, there's still so much work to be done to keep this job. And I just, no matter what, I'm trying to earn every single day I'm up here. So that's kind of my mindset.
Ça valait la peine d'être discipliné, de travailler, de s'accrocher à son rêve. Puis là, maintenant, on recueille tout simplement le fruit du labeur. C'est gros, pas seulement pour lui, pour sa famille également. Ça représente beaucoup. Puis même, comme on l'a dit précédemment avec le coach en quartier, même si c'est 800 puis 850 000 pour la prolongation, mais ça reste que si c'est petit pour les yeux de l'équipe, ça reste que c'est énorme pour l'accomplissement qu'il a fait. Alors, bienvenue dans le gros club, comme on dit. Puis là, maintenant, un membre à part entière, Kastelic, prolongation de 2 ans. On va retrouver Jacques Martin tout de suite en bout de ligne. Jacques, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Jacques, écoute, ce soir, il y a les Sénateurs qui vont entreprendre une série, une longue séquence sans leur centre numéro 1, Josh Norris. Le fait d'avoir appris la blessure de Josh Norris, pour toi, est-ce que c'est inquiétant de ton point de vue pour les Sénateurs?
Bien, c'est inquiétant à long terme, probablement. On sait que ça fait partie de la Ligue nationale, les blessures maintenant. On a seulement qu'à regarder Colorado, dont Landis Scott, qui va être absent, qui va être absent pendant 3 mois, qui n'a pas joué depuis le début de la saison. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la profondeur. Puis, en même temps, je pense que les Sénateurs sont quand même dans une bonne position. Ils ont un autre centre, Pinto, qui joue très bien. Je sais qu'il était peut-être slotté dans le troisième trio, mais que tu manques un pilier, comme tu dis, leur centre numéro un, mais c'est incroyable le nombre de blessures que les équipes doivent faire face maintenant. Ils semblent beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans passés. Donc, c'est très important pour les équipes d'avoir une bonne profondeur.
C'est un bon point, puis il va falloir peut-être se pencher là-dessus. Le nombre de blessures à l'épaule là, pour les mises en jeu, on en a eu deux, là, Pinto puis Norris maintenant, alors c'est à suivre ce côté-là. Il y a les Bruins qui vont recevoir les Red Wings ce soir, et on peut dire qu'en ce début de saison, c'est une équipe qui est surprenante parce qu'on leur donnait pas grand-chose, on donnait pas cher de la peau des Bruins, en tout cas de ma perspective cette année, une équipe vieillissante et tout ça, et pourtant. Donc, on peut parler d'une équipe surprenante, mais en plus de ça, qui va recevoir l'ajout d'un Brad Marchand ce soir. Est-ce que c'est juste de croire que les Bruins surperforment?
Bien, surperforment probablement, mais c'est quand même, tu sais, lorsque tu as une équipe avec beaucoup de caractère et de l'expérience et beaucoup de leadership, comme Bergeron apporte, je pense que ça démontre, puis on peut regarder. Se lancer sur le côté des Bruins pour voir. Ils ont commencé la saison avec leur meilleur défenseur qui n'est pas de retour encore, Charlie McAvoy, et Brad Marchand aussi sur leur encore. Donc, puis ils ont, je pense qu'ils ont perdu seulement qu'un match jusqu'à maintenant. Oui. Donc, ça démontre que tu peux quand même bien travailler, tu peux même bien gagner avec l'absence de certains joueurs clés. Donc, c'est sûr que les Bruins, c'est une équipe qui impressionne. On a seulement qu'à regarder la culture qui est là. Et je pense que lorsqu'on parle de culture, il faut quand même donner du crédit à un de nos anciens sénateurs, Gino Sherrod, qui a vraiment été une personne clé dans l'établissement de cette nouvelle culture avec les Bruins. Lui et Bergeron ont développé cette culture-là. Et maintenant, on voit que les Bruins, à chaque année, et aussi peut-être l'importance d'avoir deux bons gardiens de but. C'est peut-être la nouvelle vogue maintenant. Je dirais qu'il y a très peu de gardiens de but qui ont un numéro un qui va jouer 60 matchs maintenant. Souvent, on se fie à deux gardiens de but. Et je pense que les Bruins sont un bel exemple d'avoir deux excellents gardiens de but, un A, un B.
Les Bruins, un bel exemple. Les Sabres également, parmi les équipes qui pointent dans le bon sens. Est-ce qu'on peut parler justement d'une équipe à surveiller cette année? Beaucoup de jeunes, puis beaucoup de jeunes qui maturent en même temps, là.
Oui, c'est exact, Nicolas. Puis je pense que ce qui va être intéressant cette année, comparativement à l'année dernière, après le mois de janvier, je pense qu'il n'y a pas eu de changement dans le classement. Donc, il y avait une grosse séparation entre les 8 premières équipes qui se qualifiaient pour les séries éliminatoires et les équipes qui allaient manquer les séries. Contrairement, cette année, moi, je vois une bataille jusqu'au dernier match de la saison, parce que tu regardes à l'amélioration des équipes comme les Sénateurs qu'on a mentionnés, les Sabres, les Devils aussi sont en haut, et les Red Wings. Donc, ce sont 4 équipes dans la conférence. Je pense qu'ils vont vraiment pousser, qu'ils vont batailler jusqu'à la fin pour une place en séries éliminatoires.
Les Bruins, les Sabres, donc des équipes qui surprennent pour les bonnes raisons. De l'autre côté, on peut dire que les Maple Leafs, c'est une équipe qui fait parler d'elle, pas nécessairement d'une façon positive. On semble avoir, on va reconnaître la qualité des joueurs, mais on semble pas avoir un vestiaire au même diapason. C'est quoi le problème selon toi à Toronto, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour régler ça?
Bien, c'est difficile lorsque t'es pas sur place, là, Nicolas. C'est sûr qu'ils ont une très bonne équipe, ils ont d'excellents joueurs. Ils l'ont démontré année après année, dernièrement en saison régulière, avec leur performance. Et même, je dirais que l'année dernière, même s'ils ont perdu en première ronde contre le Lightning, ça a été probablement leur meilleure performance. Je croyais vraiment qu'ils avaient appris et qu'ils avaient fait un pas dans la bonne direction de la façon de jouer, de la façon de compétitionner en séries éliminatoires. Donc maintenant, oui, il y a eu des changements cet été, mais il reste quand même c'est tôt. Donc, des fois, une équipe marche, et peut-être lent à se mettre en marche, et c'est certain que leurs gros canons n'ont pas commencé en même temps que les autres. Donc, c'est une équipe qui a besoin de ces gros joueurs de bien performer. Et peut-être c'est une équipe que la défensive, peut-être, eux autres aussi, ils ont eu des blessures, mais je pense que la clé d'une équipe maintenant, c'est la défensive. On a seulement qu'à regarder les champions de la Coupe Stanley l'année dernière, les Avalanches de Colorado. Leur défensive était nettement supérieure à leurs adversaires, et je pense que ça a fait la différence en série éliminatoire.
Là, tu as parfaitement raison. Dernière pour toi, on va se tourner vers l'Ouest parce que si Toronto sous-performe, on peut dire que c'est la débâcle du côté de Vancouver. On ne veut pas paniquer, c'est encore tôt dans la saison, mais selon toi, qu'est-ce qui se passe là-bas et est-ce que c'est vraiment un club en déroute?
Bien, je pense c'est difficile à dire, je ne croirais pas. Si on regarde la façon qu'ils ont joué lorsque Bruce Boudreau s'est joint à eux l'année dernière, ils ont eu quand même une bonne fin d'année, une bonne deuxième moitié. Oui, c'est sûr que souvent les équipes vont peut-être te prendre à la légère lorsque t'es hors des séries éliminatoires, mais reste quand même, c'est une équipe qui a quand même un bon noyau. Mais encore là, c'est une équipe qu'il faut regarder à leur défensive. Peut-être une défensive inexpérimentée, une défensive qui peut définitivement être améliorée, parce qu'ils ont un très bon gardien de but, ils ont de bons joueurs, donc c'est la chimie et aussi l'élément de confiance, parce que lorsque tu perds, c'est important pour l'entraîneur de rallier, de simplifier les choses et de bâtir la confiance de ses joueurs pour s'en sortir.
Les Canucks ce soir contre les Kraken à Seattle. Toujours un plaisir de te parler, Jacques. On te remercie beaucoup du temps que tu nous accordes. On se dit bonne fin de soirée, bon week-end et à jeudi prochain.
Parfait, Nicolas. Toi aussi.
Jacques Martin, mesdames, messieurs, qui nous parle une fois la semaine, ce sera tous les jeudis. Un autre membre de notre grosse équipe de collaborateurs, la meilleure de collaborateurs sportifs ici dans la capitale. Merci d'être là. La meilleure émission sportive francophone dans la capitale, c'est nous dans le vestiaire, version écourtée. Deux autres blocs, Patrick Grandmaître pour nous parler de ses GGs en hockey masculin. Mais tout d'abord, on parle football. Match du jeudi soir, ce soir dans la NFL avec Mark Schreiber.
Salut, ici Claude Giroux des Sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
Claude Giroux qu'on va retrouver avec sa bande ce soir au hockey Véronique Lecier des Sénateurs contre le Wild du Minnesota. Parlons un peu de football avec Mark Schreiber. Marc, tout d'abord, il y a un match jeudi soir dans la NFL. Ce sera les Ravens d'un côté contre les Bucks de l'autre. Les Bucks n'ont pas le choix. On doit l'emporter, mais ça pourrait être un mauvais quart d'heure considérant que la semaine dernière, les Ravens ont eu 5 sacs du corps. Là.
Oui, puis quand je regarde ces deux équipes-là, je t'avoue que je trouve qu'ils ont des saisons relativement similaires. Premièrement, aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'a pas des grandes saisons, mais on est tous les deux premiers dans cette division respective. Ouais. Et les deux attaques sont un peu en panne sèche. On n'est pas à 100% de notre capacité. On a quelques joueurs, normalement, qui font des grandes différences dans des matchs. Ça ne s'est pas encore produit. Puis ça, c'est dangereux. À n'importe quand, quelqu'un peut exploser, avoir tout un match. Le meilleur exemple de ça, deux statistiques. Tampa Bay, ils ont en moyenne marqué seulement 17 points par match. Ça, c'est vraiment pas comme ce qu'on connaît de Tom Brady. On le protège pas assez. On a de la difficulté à se démarquer du côté de ses receveurs. Puis du côté des Ravens, on donne 366 verges par match. Il va falloir mettre la pression sur le corps arrière parce qu'on a une défensive qui va pas tellement bien du côté de Baltimore.
Ah ben on va voir si le taux de frustration va augmenter après cette rencontre-là. Tom Brady qui a commencé à lever le ton envers son équipe au cours de la semaine. Alors, à suivre, comme on dit. Les matchs que tu vas retenir, qui va retenir ton attention en fin de semaine?
Il y en a trois. Je n'ai pas encore vu jouer les Titans. Mais l'équipe de Tennessee est en première position de sa division avec une fiche de 4-2. Bien hâte de voir ça parce que, écoute ça, c'est présentement l'équipe la plus faible en termes de verges gagnées par la passe. 138 verges en moyenne par match. Ouf. C'est vraiment très faible, ça. On a gagné 4 matchs sur 6. Vraiment hâte de voir quel genre d'équipe ils ont sur le terrain. Deuxième équipe qui m'intéresse, ça fait un bout de temps que je ne les ai pas regardés de façon spécifique, mais il y a une seule équipe invaincue dans cette ligue-là, c'est les Eagles de Philadelphie, qui jouent contre Pittsburgh. Ouf, ça va pas bien du côté de Pittsburgh, mais ça va être une guerre physique, parce qu'il y a beaucoup de fierté dans cette équipe-là à Pittsburgh. Et donc, j'ai l'impression que ça va peut-être être un des matchs les plus physiques du week-end. Et finalement, dimanche soir, Green Bay, qui a également beaucoup de difficultés cette saison, joue contre Buffalo. Ça, c'est deux extrêmes. Une attaque à Buffalo qui va hyper bien au sol par la passe. Puis du côté de Green Bay, on a beaucoup de difficultés, mais tout un corps arrière qui peut créer des revirements. Et donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme résultat dimanche soir.
Je me demande pourquoi tu vas regarder ça. Je suis même pas sûr si je vais regarder mes Packers. J'ai trop peur du résultat. Puis on parlait de Tom Brady qui a levé le ton, là. Ben, Aaron Rodgers a levé le ton également, là. Hâte de voir la réaction de sa brigade offensive là-dessus. Il y a les Canadiens de football qui en est un dernier week-end d'activité en saison régulière, là.
Ouais, puis écoute, c'est particulier parce que tout est déterminé. On connaît les 6 équipes qui vont faire les séries. Ces 6 équipes-là ont aucun avantage à jouer un match de plus. C'est même dangereux parce qu'on joue au football, puis par nature même du sport, pour arrêter l'adversaire, il faut que tu le plaques, il faut que tu l'amènes au sol. Donc, c'est intense comme jeu. Il y a que du danger de jouer un match de plus qu'on n'a pas besoin d'un, qui est potentiellement de recevoir des blessures. Donc, comment tu protèges tes joueurs? Parce que c'est possible de le faire. Voici ce qu'il faut s'attendre dans la Ligue canadienne ce week-end. On va probablement avoir beaucoup plus de jeux de passe. Parce que lorsqu'on a des jeux de passe, il y a beaucoup moins de blocs et de plaqués violents. Et donc, à ce moment-là, même dans la boîte défensive et dans la boîte à l'attaque, on protège le carrière. C'est beaucoup plus simple d'avoir moins de contacts qui sont très intenses. On va des fois courir des tracés de passe vers les lignes de côté. Ça évite le nombre de plaqués. On peut sortir du terrain. On va avoir beaucoup de rotations de joueurs. Et on va dire au receveur, une fois que tu as attrapé le ballon, là, puis qu'un joueur arrive, là, essaie pas de gagner 3 verges de plus au risque de te faire frapper par 4-5 joueurs. Donc, ça va changer le match parce que tu peux pas risquer à perdre des joueurs avant ta semaine de série.
Oui, faudrait certainement pas, définitivement pas. Il y a les séries qui vont débuter en football universitaire, mais seulement en Ontario en fin de semaine.
Seulement en Ontario parce qu'il y a 11 équipes dans la conférence d'Ontario. Donc, toutes les autres conférences de l'Ouest, les Maritimes, la conférence du Québec, le KKREM, puis Rouge et Arbre, on a encore une autre semaine de saison régulière à jouer. En Ontario, il faut commencer plus tôt parce que ça prend plus de temps à déterminer son gagnant de conférence. Et donc, les GGs vont recevoir le premier match de saison samedi contre l'Université Windsor. Il y a eu un match en ces deux-là cette saison. C'est les GGs qui ont gagné seulement par 3 points au début de la saison au mois d'août. Mais quand même, ça peut nous donner de présager un beau match. Puis de l'autre côté, Carleton, qui rend visite à Laurier, mais eux autres ne se sont jamais rencontrés durant l'année. C'est spécial de commencer ta série de fin de saison contre une équipe de ta conférence, Nicolas, mais que tu n'as jamais rencontré. Bien, c'est pas compliqué. On joue 8 matchs au football universitaire. Pourquoi jouer avec l'école commence? Puis on ne peut pas jouer jusqu'à Noël parce qu'il fait trop froid, il y a trop de neige. Et donc, on joue 8 matchs. Il y a 11 équipes. Donc, tu as des équipes dans l'année que tu n'as pas rencontrées. Tu vas rencontrer pour la toute première fois dans les séries de fin de saison.
Oui, c'est spécial, effectivement, mais certainement un bon spectacle. Puis les deux équipes qui ont le potentiel, on parle de Carlton et GGs, de passer à l'autre étape. Alors, on leur dit le mot cambronne. C'est jeudi, et qui dit jeudi, capsule avec vos lunettes de coach. De quoi on parle aujourd'hui? On va parler de bloc illégal, mais pourquoi on parle de ça?
Ben, c'est surtout parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé dernièrement, Marc, il me semble qu'il y a eu beaucoup de blocs illégaux, de punitions pour avoir retenu, bloqués dans le dos, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne, ce règlement-là? Parce que je vois rien. Et donc, c'est pas hyper compliqué à comprendre. Et commençons par ça. Il faut comprendre d'abord ce que c'est un bloc comparativement à un plaqué. Donc, les deux termes en anglais seraient même chose, block versus tackle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plaquer l'adversaire, c'est celui qui a le ballon de l'autre côté. Tu veux l'amener au sol. Là, les règles sont beaucoup moins contraignantes. Tu peux vraiment même agripper son chandail. Tu peux l'attraper par les jambes, l'amener au sol. Là, tu veux le plaquer. Mais quand tu bloques au football, c'est que tu protèges ton coéquipier qui a le ballon. Soit que tu protèges le corps arrière en arrière ou tu protèges un porteur de ballon ou un receveur qui tente de courir vers la zone adverse. Et là, tu lui ouvres des chemins pour qu'il puisse courir. Mais il y a beaucoup de règles qui régimentent un peu le bloc. Et c'est pas hyper compliqué. Le premier règlement dit, il faut que tu sois face à la personne que tu bloques. S'il ne doit pas venir ou si tu es dans son dos, tu ne peux pas y toucher. C'est pour ça que des fois, qu'on appelle même des punitions comme bloc dans le dos. Deuxième chose, on dit qu'on bloque avec son corps. Tu ne peux pas sortir ton bras comme une corde à linge, si tu veux, pour empêcher le joueur de passer à ta gauche ou à ta droite. S'il essaie de dépasser à ta gauche ou à ta droite, il faut que toi aussi tu fasses un pas dans sa direction pour placer ton corps devant lui. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est comme si c'était un miroir. C'est comme ça qu'on apprend aux jeunes joueurs à bloquer. Si l'adversaire se déplace vers la droite, déplace-toi, suis-le pour être corps à corps face avec lui. Et donc, c'est beaucoup plus simple de bloquer un adversaire, Nicolas, quand il est dans la boîte, lorsqu'il y a tous les gros bonhommes. Parce qu'il y a moins de place, il y a plein de gens autour. Il y a moins d'espace pour le défenseur de s'esquiver. Mais quand tu bloques à champ ouvert, les receveurs de passe, là, quand ils n'ont pas de tracé au courant parce qu'on fait un jeu au sol, bien, eux autres, ici, il faut qu'ils essaient de bloquer. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, avec vos lunettes de coach, au lieu de toujours suivre le joueur qui a le ballon, regardez juste devant lui ou autour. Et regardez les techniques de bloc qu'on tente de mettre en place. Puis, des fois, vous-même, vous allez pincer quelqu'un qui va avoir commis une faute en sortant un bras, en tirant sur son chandail, parce que tu n'as pas le droit de le faire. Tout ce que tu peux faire, c'est te placer devant lui.
Mettez vos lunettes de coach, puis regardez vos matchs en fin de semaine. Ce soir, un match du jeudi soir entre les Ravens qui visitent les Buccaneers à Tampa. Bonne rencontre ce soir, mon cher Mac. Bonne fin de soirée, bon week-end, et on se dit à mardi prochain. Oh, 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 attends une minute avant que je te quitte. On a oublié d'en parler, mais il y a un gros événement en fin de semaine dont on devait parler à part de ça, puis il faudrait quand même le souligner. C'est un gros événement mondial. Est-ce que c'est la première étape du championnat mondial, c'est ça?
Exactement. Donc, dans les sports d'hiver olympiques, là, on est loin des Jeux olympiques. Donc, il y a une série de ce qu'on appelle de Coupe du monde. Et donc, moi, je suis à l'équipe de patinage de vitesse courte-piste. Et en fin de semaine, c'est le début de la saison des Coupes du monde. Ça se passe à Montréal. Puis après ça, l'équipe part en tournée dans différents pays nordiques.
À quoi ça ressemble, l'équipe nationale, cette année?
Je pense qu'on va faire parmi ceux qui vont être les équipes à surveiller. Mais le problème dans mon sport, c'est qu'une seule chute, ça te coûte ta course. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se produire.
Ben, chose certaine, t'es un gars occupé, alors on va te laisser vaquer à tes occupations, mais bonne chance à tous les athlètes. Bon week-end et on se dit à mardi prochain, mon ami.
À mardi, bon week-end.
Marc Schreiber, mesdames, messieurs, qui est directeur technique pour l'équipe nationale de patinage de vitesse courte-piste en plus de ça. Alors, on vous rappelle la qualité de nos collaborateurs et collaboratrices, c'est comme ça. On aura ensemble un très bon match à vous présenter ce soir au hockey Véronique Lecier des Sénateurs. Les Sénateurs contre le Wild du Minnesota. Concernant justement le commentaire avec notre ami Renaud Lavoie, il y a Mathieu qui nous a écrit. On parlait d'un virus dans le vestiaire parce qu'on avait dit qu'on avait fait le grand ménage du côté des Sabres de Buffalo, puis en se débarrassant également de Jack Eichel, puis dit le réel virus, c'était Jack Eichel. Un peu comme Matthews, rien pour enlever aux individus ou aux joueurs qu'ils sont. Je pense que lui aussi, Eichel, fait partie de ces joueurs-là, grandioses, mais qui ne feront pas de leur club un club gagnant. Je dis ça comme ça, c'est mon petit commentaire. Parlons un peu des succès en fin de semaine dernière, mais de la défaite hier soir des GGs de l'Université d'Ottawa. On parle de hockey masculin avec l'entraîneur-chef Patrick Grandmaître. Patrick, comment vas-tu? Patrick n'est pas là encore, alors faites-vous-en pas. On va aller le rejoindre dans quelques instants. Ce qu'on peut dire cependant, c'est que ce soir, il y a quand même beaucoup de matchs en Ligue nationale de hockey. Il y en a 10 au total, Vancouver contre Seattle. Vancouver, faut regarder ça, là, parce que là, en ce moment, ben le diable est aux vaches, puis on se pose des questions à savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. À écouter certains observateurs qui évoluent là-bas, ça coule de toutes parts. Le nouveau directeur général, Avelin, si je me trompe pas, M. Rutherford, ne veulent pas paniquer, loin de là. C'est quand même assez tôt dans la saison, mais le statu quo n'est pas de mise. Vous avez un JT Miller qui était sous-performant, qui a signé un gros contrat. Besser qui a été blessé également et qui va manquer une certaine partie du calendrier. Bref, il y a des choses à colmater. Une équipe qui pourrait être active sur le marché, on verra bien. À part de ça, vous avez la Floride contre Philadelphie, Minnesota qui visite évidemment vos Sénateurs ce soir. 18h30, c'est l'avant-match du CECCE. Le hockey Véronique Lecier des Sénateurs, c'est à 19h. Les Blues qui visitent les Prédateurs à Nashville, les Kings qui reçoivent les Jets de Winnipeg, Montréal qui est à Buffalo contre une équipe à surveiller, je le dis, je le répète, les Sabres de Buffalo. Je ne pensais pas que ça allait être le cas, mais on doit admettre qu'ils surprennent en ce début de saison. Détroit, un match à regarder parce que ce soir, vous avez Boston. Boston qui, ce soir, va recevoir dans son vestiaire nul autre que Brad Marchand. C'est un retour, précoce. On s'attendait peut-être, je dis bien, à la fin du mois de novembre, et pourtant, disons qu'il revient d'une façon fulgurante. Sera-t-il capable de mettre son épaule à la roue? Je pense que oui. Et ça, c'est un match qu'on va regarder en parallèle. On nous dit que Pat, en ce moment, n'est pas disponible. pas de problème. On va se dire à une prochaine fois, par exemple. Mais on doit quand même rappeler que il y a la victoire de 9-2 contre le Collège militaire en fin de semaine, contre Queens également. Puis hier, on jouait contre l'UQTR, puis on a perdu 5-0. Il y a des joueurs qui sont démarqués. Entre autres, Justin McRae avec son premier but contre Queens. Il y a eu également Charles-Antoine Roy, 3 buts en 5 matchs, qui va bien. Jean-Philippe Tourigny qui a gardé un des 2 matchs. Puis tout va bien de ce côté-là. Alors, un beau défi, l'UQTR, probablement le gros programme du côté du sport universitaire là, en hockey masculin. Alors, c'est à surveiller. Puis je pense pas qu'on peut parler d'un test, un match baromètre, mais tout de même un gros test. 5-0. Ça fait mal, on va rebondir. Un qui est à surveiller également et un à qui on dit bonne chance. C'est un bonhomme qu'on a entendu souvent ici dans le vestiaire, puis qui fait ses débuts comme professionnel à domicile. Ce soir, c'est un gala de boxe au Lac Limy, au casino du Lac Limy. Et c'est Eye of the Tiger Management qui présente tout ça. En combat principal, vous allez avoir Yves Ulysse contre José Macias Enriquez. Mais il y a également Alexandre Gaumont, petit gars de la place, un petit gars de Buckingham qui fait ses débuts devant parents et amis. Puis on lui souhaite la meilleure des chances. Un gros gala avec plein de personnalités, plein de gros noms. Également, il y a Harley Davidson, O'Reilly, c'est-tu ça? Harley O'Reilly, Davidson, oui, voilà. Un gars de la place qui retourne dans l'arène et qui fait ses débuts professionnels. Alors, on dit bonne chance, puis surtout, bonne initiative de Eye of the Tiger Management. C'est le fun de voir la boxe professionnelle revenir. J'espère que c'est le premier de plusieurs galas qui seront présentés ici dans la région de la capitale nationale. Puis, petit clin d'œil pour Ottawa également. Je pense qu'on est juste au-dessus de la rivière puis on a bien des places qui pourraient accueillir un gala de même. Alors, juste comme ça. Alors, mon nom est Nicolas Saint-Pierre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une pause. Et au retour, on va faire place à l'avant-match du hockey Véronique Lecier et Sénata, qui est une présentation du CECCE. Je remercie tous nos invités puis on vous invite à nous suivre évidemment pour le hockey Véronique Lecier. Alors que les Sénateurs vont recevoir le Wild du Minnesota. Mick, c'est-tu correct avec toi, ça, si on ferme l'émission tout de suite? Il nous dit pas de problème, alors let's go comme ça. On se dit bonne fin de soirée pour le vestiaire et à tantôt pour l'avant-match du CECCE.